Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Karim Amelal, ambassadeur de France pour la Méditerranée, fondateur du mouvement citoyen Pluriel. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Karim Amelal, vous êtes également enseignant à Sciences Po, vous êtes un acteur engagé pour l'égalité des chances. Et à moins de 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle en France, j'aimerais que vous nous parliez de Pluriel, ce mouvement citoyen qui est né il y a quelques jours. Sa vocation est d'apporter des idées et des propositions dans le débat public.
Oui, effectivement, c'est notre objectif, compte tenu du contexte qui est marqué par la prégnance des idées d'extrême droite. Ça n'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure, mais nous sommes contraints de constater que ces idées-là gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Et il nous semblait absolument nécessaire de nous engager, de nous organiser pour porter un autre discours, un discours de tolérance, un discours d'inclusion. Hein. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est porter des idées, des propositions surtout, des propositions concrètes pour nourrir le débat autour de ce qui est, me semble-t-il, la promesse fondamentale de la République, c'est la promesse d'inclusion. Et il nous paraît aujourd'hui urgent d'agir dans ce sens.
Karim Amelal, vous dénoncez le niveau de haine qui prévaut actuellement dans le débat politique. Certains commentateurs estiment que l'extrême droite a gagné la bataille des idées. Et gagner la bataille culturelle, finalement, c'est un premier pas avant de s'emparer du pouvoir. Les humanistes, les républicains peuvent inverser ce processus mortifère.
Vous savez, j'avais écrit en 2016 un livre qui était un roman, pas prophétique j'espère, mais ce qu'on appelle une dystopie, qui s'appelait Bleu, Blanc, Noir, et qui racontait comment, en ayant gagné la bataille des idées, l'extrême droite s'emparait du pouvoir et mettait en œuvre sa politique. C'était en 2016, nous sommes aujourd'hui en 2022, et j'ai l'impression que ces idées ont encore gagné du terrain. Je le disais il y a un instant, mais sur un certain nombre de sujets, nous ne pouvons pas constater autre chose que la surreprésentation de ces idées dans le débat public et le fait qu'elles inondent non seulement le débat public, mais de plus en plus des forces qui jusque-là étaient plutôt censées être du côté de la République, des forces républicaines. Quand on voit ce qu'il est advenu, ce qu'il advient finalement chaque jour d'une théorie complotiste comme le grand remplacement, des théories identitaires ou des délires identitaires qui sont bien connus du côté de l'extrême droite, mais qui était marginal jusque-là et qui aujourd'hui envahissent le débat public jusque dans le camp républicain, c'est pas seulement détestable, c'est absolument effrayant. Et de ce point de vue-là, en tant que citoyen français, il me semble, et en tant que républicain, il me semble nécessaire de porter un autre discours, et à travers ce discours, ou plutôt au-delà du discours, encore une fois, des propositions autour de thématiques, de sujets qui nous renvoient à ce qu'est fondamentalement la République, c'est-à-dire l'école de la citoyenneté, l'école du vivre ensemble, l'école de l'inclusion, et c'est, je crois, ce dont on a aujourd'hui extrêmement de besoin tous ensemble.
Alors il y a déjà plusieurs propositions faites par ce mouvement citoyen baptisé Pluriel. Vous souhaitez par exemple favoriser le microcrédit dans les quartiers populaires. C'est une demande d'une partie de la population, une aide pour financer notamment des projets d'entreprise.
Oui, je le disais, notre objectif commun, en tout cas ce vers quoi nous souhaitons aller, c'est la promesse fondamentale de la République, c'est l'inclusion. C'est-à-dire comment est-ce que tous ensemble, nous réalisons un destin commun. Pour aller vers ce destin commun, pour construire ce destin commun, il y a un certain nombre de mécanismes, il y a un certain nombre de verrous aussi qu'il faut lever, d'obstacles. La question des discriminations, de toutes les discriminations, des inégalités, ça fait partie de ces verrous qui nous empêchent de nous réaliser en tant que citoyens et de construire tous ensemble ce destin commun. Et puis il y a une autre mécanique, un autre processus qui est très important, c'est comment est-ce que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous peut s'émanciper, sortir de son assignation, alors identitaire, culturelle, en termes de milieu social, de son territoire, pour se réaliser en tant que citoyen, c'est-à-dire pour réussir sa vie. C'est pas réussir en devenant millionnaire, loin s'en faut, il y a mille manières de réussir, mais c'est comment est-ce qu'on peut, quand on est par exemple issu d'un quartier populaire, quand on est issu d'une zone rurale, d'un territoire défavorisé, comment est-ce qu'on peut s'affranchir de ces contraintes pour faire quelque chose, pour s'engager, pour entreprendre? Et effectivement, il nous semble qu'il y a encore un certain nombre de verrous qu'on peut lever pour favoriser l'entrepreneuriat au sens large. Créer une entreprise, c'est pas forcément espérer devenir milliardaire, c'est créer un commerce, c'est créer de la valeur ajoutée, c'est créer de la valeur ajoutée pour soi et pour sa famille. Et je crois qu'une bonne manière de faire, eh bien, c'est justement d'encourager cet entrepreneuriat, en particulier dans ces territoires défavorisés, les quartiers populaires, notamment autour de mécanismes d'exonération de charges, autour de mécanismes qui permettent justement d'encourager finalement l'entrepreneuriat, c'est une manière de voir le monde, c'est une manière de se considérer et de se projeter dans le monde. C'est ça que nous souhaitons à travers cette proposition et d'autres, évidemment, par exemple sur l'enseignement supérieur ou d'autres sujets.
La difficulté quand on est un jeune entrepreneur, c'est qu'on n'a pas la confiance des banques et parfois nos parents ne peuvent pas nous aider.
Exactement, exactement. Et donc, il est important que nous puissions accéder à d'autres sources de financement. Il est important que nous puissions bénéficier de prêts bancaires à taux bonifiés ou de façon exonérée. Il est important que nous puissions favoriser de dispositifs de mentorat, d'accompagnement, de coaching. Il est important aussi que nous puissions bénéficier d'un réseau. C'est tout cela qui, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, manque dans les territoires défavorisés. Et je dis territoires défavorisés parce que c'est valable aussi bien dans les zones rurales que dans les quartiers populaires. On parle toujours des quartiers populaires, c'est très très important, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à cet endroit-là, mais l'entrepreneuriat dans sa diversité s'enracine finalement partout, et il est important que là où c'est plus difficile, nous puissions mettre en œuvre des dispositifs renforcés.
Karim Amelal, autre initiative proposée par Pluriel, crée un indice de la diversité, mais vous ne souhaitez pas stigmatiser telle ou telle entreprise parce qu'on a appelé en anglais le name and shame. Au contraire, vous souhaitez valoriser les entreprises qui ont de bonnes pratiques.
Oui, tout à fait, parce que beaucoup d'entreprises font des efforts, font des progrès aussi, pas toutes, hein, mais beaucoup. Elles mettent en place des dispositifs, des politiques de la diversité, des politiques de parité, qui permettent d'accroître la diversité, les diversités d'ailleurs, la place des femmes aussi, c'est très important, et donc nous souhaitons mettre en valeur celles qui sont de ce point de vue audacieuses et qui mettent en place des dispositifs qui vont dans le bon sens. Donc je crois que plutôt que punir, plutôt que stigmatiser, et de façon générale, pas que pour les entreprises et pas que pour les politiques de diversité, il vaut mieux mettre en valeur, récompenser, ça me semble être une meilleure manière de procéder et de récompenser l'effort.
Alors, il y a une autre mesure phare, c'est avoir un taux de boursiers dans les grandes écoles. Vous donnez le chiffre de 30%, vous qui êtes enseignant à Sciences Po, c'est un moyen de favoriser l'accès à ces écoles dites élitistes pour les enfants des milieux modestes.
Oui, et c'est important de le dire, pour tous les enfants des milieux modestes, là encore, qu'ils viennent de centre-ville, de zones rurales, de quartiers populaires, bien sûr, il est important de fixer un objectif et de faire en sorte que cet objectif soit atteint. 30%, c'est un objectif qui est atteignable, que certaines grandes écoles, vous parliez de Sciences Po à Paris, ont déjà atteint, voire dépassé, et en revanche, certaines grandes écoles écoles, je pense en particulier aux écoles de commerce et à certaines écoles d'ingénieurs, sont encore très loin et trop loin de cet objectif. Et donc fonctionnent encore d'une manière qui sur ce plan-là, sur le plan méritocratique et sur le plan de la promotion des efforts de chacun eu égard à ses conditions sociales n'est pas satisfaisante. Donc il nous paraît non seulement souhaitable mais surtout réaliste de fixer cet objectif de 30% pour toutes les grandes écoles, toutes celles qui ont ce statut, bien que ce statut ne soit pas tout à fait équivalent ou généralisé partout, hein, certains comme Sciences Po sont plutôt des grands établissements, d'autres ont d'autres statuts, mais enfin, pour l'ensemble de ces établissements-là, il faut aller vers cet objectif de 30% à atteindre.
Karim Amelal, l'une des ambitions de votre mouvement est de favoriser la diversité et la parité aussi dans les œuvres télévisuelles et cinématographiques. Après les émeutes de 2005, les médias s'étaient ouverts à la diversité sous l'impulsion notamment du président Chirac. Aujourd'hui, c'est à la fiction de s'ouvrir et de refléter la réalité française, un peu comme ce qu'on a fait aux États-Unis dans les années 60.
Oui, c'est important, vous le disiez, après les émeutes de 2005, il y a eu un vrai effort qui a été fait dans ce sens, de tous les acteurs d'ailleurs concernés, médiatiques, télévisuels, cinématographiques, et puis c'est retombé, et nous sommes aujourd'hui dans une situation, sur ce plan-là comme sur d'autres, qui n'est pas satisfaisante, parce que nous voyons des films, hein, des œuvres de fiction, qui ne sont pas représentatives de la société française. Alors, ce serait absurde de demander une représentativité miroir, c'est-à-dire une représentativité à l'identique de ce qu'est la société française. Mais il se trouve que la société française est plurielle, elle est diverse, y compris sur le plan culturel, et il est non pas seulement souhaitable, mais nécessaire que cette diversité se reflète aussi à l'écran sur le plan télévisuel, hein, et c'est la question qui est un enjeu fort de la diversité à l'information, par exemple, dans un certain nombre de journaux télévisés, de démissions de télévision, et puis il est aussi important, et peut-être même encore plus important, que cette diversité se reflète à l'écran également, mais sur les grands écrans et à travers la fiction. Pourquoi ? Parce que la fiction, ça nous raconte, ça raconte ce que nous sommes, ça raconte notre pays, ça raconte notre passé, ça raconte notre avenir. Et il n'est pas souhaitable, évidemment, que cette réalité soit travestie en montrant une image, en projetant une image qui n'est pas celle de la société française, qui est différente de ce qu'est la société française, encore une fois. Et pour ça, il faut effectivement, pour accroître cette représentativité, pour que les œuvres de fiction reflètent ce qu'est la société française, il faut des dispositifs, il faut des mesures, il faut des mesures d'accompagnement, il ne faut pas de mesures punitives, mais il faut des dispositifs, des objectifs qui incitent l'ensemble des acteurs de ces filières-là à faire que les œuvres de fiction, notamment, reflètent la diversité de la société française.
Dans cette élection présidentielle, il y a deux visions de la France qui s'affrontent, en tout cas c'est celle qu'on entend le plus. Il y a celle d'Éric Zemmour qui brandit cette théorie complotiste du grand remplacement, et puis il y a le concept formulé par Jean-Luc Mélenchon de créolisation. Est-ce qu'il y a une troisième voie possible ?
Oui, je le crois, et c'est ce que nous souhaitons dire, promouvoir, porter. Il y a entre les délires de identitaire ou identitariste de l'extrême droite à travers la théorie du grand remplacement, mais pas que, hein, beaucoup d'autres vieilles lunes de l'extrême droite, et puis je dirais pas les délires, mais en tout cas les excès de ce qu'on appelle le wokisme, de façon un peu bête d'ailleurs, parce qu'on franchement on n'a pas besoin de prendre aux Américains et à la culture américaine ce qui lui appartient et d'essayer de les transplanter comme ça dans notre pays. Je crois profondément à notre grammaire républicaine et je crois que finalement cette grammaire républicaine, c'est la voie médiane, c'est celle qu'il nous faut appliquer. On a une devise qui est la plus belle du monde: liberté, égalité, fraternité. C'est un programme politique à elle seule. Il ne nous reste plus qu'à faire en sorte que cette devise républicaine, ce qui nous caractérise en tant que citoyens, les valeurs qui nous rassemblent eh bien soit mise en œuvre et soit une réalité pour tout le monde. Donc je vais vous dire quelque chose d'extrêmement simple, c'est que la voie médiane que nous portons, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise républicaine.
Vous souhaitez, Karim Amelal, que les candidats s'emparent de vos propositions, notamment le président Emmanuel Macron, dont vous êtes proche?
Bien sûr, évidemment, Pluriel est un mouvement citoyen, un mouvement qui est tourné vers la société civile et qui est nourri par la société civile. Nous portons des propositions qui appartiennent à tout le monde, de fait, et que nous souhaitons promouvoir dans le débat public. Pourquoi dans le débat public? Parce que c'est l'espace public, c'est l'espace de la communication, du débat, de la discussion démocratique. Et bien sûr que nos propositions s'adressent à tous les candidats, y compris bien sûr au président de la République, qui, sur un certain nombre de sujets, a beaucoup fait au cours de ces 4-5 dernières années, mais nous considérons que sur beaucoup des sujets que nous souhaitons porter, eh bien encore plus de choses pourraient être faites. C'est aussi le sens de nos propositions.
Lors du Forum des mondes méditerranéens que vous avez organisé début février à Marseille, Karim Amelal, le président Macron a eu des mots très forts sur le rôle des diasporas pour répondre aux grands défis communs aux deux rives de la Méditerranée. Il a cité l'éducation, l'emploi ou encore le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les hommes politiques qui disent que les diasporas sont une chance pour la France sont plutôt rares.
Je vous le fais pas dire, cher Loïc Barrière, ils sont plutôt rares. Le président Macron a ceci de singulier, finalement, dans le paysage politique que vous venez de décrire, que c'est le seul ou l'un des seuls à chaque fois affirmer...
Avec la gauche.
Oui, avec la gauche, enfin avec ce qu'il reste de la gauche en tout cas, a affirmé de façon extrêmement claire et de façon raisonnable le rôle des diasporas, la richesse des diasporas pour notre pays. Il ne s'agit pas de dire que les diasporas sont une richesse, pas d'avoir un discours très lénifiant et un peu bébête finalement, c'est de montrer qu'elles ont un rôle à jouer et qu'il faut qu'elles le jouent. Il faut qu'elle le joue, par exemple, s'agissant de la Méditerranée, entre les deux rives de la Méditerranée, et qu'elle le joue concrètement, comme elles l'ont fait d'ailleurs lors de la crise sanitaire, lors de la pénurie d'oxygène dans les pays du Maghreb, et lorsqu'elles l'ont fait également à l'occasion des incendies qui ont malheureusement traversé l'Algérie, en se mobilisant, en s'organisant, en investissant aussi. C'est tout le sens du fonds de soutien que le président de la République a annoncé, un fonds de soutien de 100 millions d'euros pour des projets entrepreneuriaux tournés vers les pays du Maghreb. Donc il ne s'agit pas simplement de dire que la diaspora c'est une richesse collective, certes c'est important, et c'est important parce que ce n'est pas le discours dominant, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment, mais aussi de traduire ça dans des faits, dans des actes, et c'est aussi le sens de Pluriel que de nourrir cette vision, mais de la nourrir concrètement, avec des propositions justement sur ce que pourrait être le rôle de la diaspora sur le plan de l'investissement par rapport à l'Afrique, par rapport au Maghreb en particulier.
Vous avez retenu 4 mesures pour l'instant. Vous serez amené à formuler d'autres propositions dans les jours qui viennent.
Bien sûr, nous en avons beaucoup en stock sur lesquels nous travaillons et qui nous sont délivrés par nos différentes personnalités, celles qui nous soutiennent, par des groupes de travail que nous avons mobilisés depuis des semaines maintenant et qui nous permettent de creuser ces propositions et de faire en sorte qu'elles soient réalistes, chiffrées, concrètes et qu'elles puissent servir à non seulement à nourrir le débat public, mais encore plus important, qu'elle puisse être mise en œuvre. C'est ce qui compte.
Merci Karim Amelal. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de France pour la Méditerranée et fondateur du mouvement citoyen Pluriel. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.